Joseph Mengele, l'ange de la mort. Épisode 2, la banalité du mal.
Mengele est le rejeton d'une famille d'industriels qui fabriquait des machines agricoles.
Olivier Guèze, journaliste, essayiste et écrivain, auteur de « La disparition de Joseph Mengele ».
Entreprise importante avant-guerre, qui se développe sous les nazis et qui prospère littéralement après-guerre. Les machines agricoles Mengele vont envahir la terre entière. Joseph Mengele a une très bonne éducation, il a un double doctorat en anthropologie et en médecine. C'était quelqu'un de relativement cultivé, avec des goûts, c'est un conservateur très traditionnaliste. Il aimait la littérature classique allemande, la musique classique allemande. Sa première femme avait fait des études d'histoire de l'art à Florence. Il s'est marié en 1938, année où il a intégré la SS. Une année avant, il avait intégré le parti nazi. C'est plutôt un opportuniste qu'un nazi convaincu dès le départ. Il regarde un petit peu ce qui va, quels sont les nouveaux équilibres dans cette nouvelle Allemagne, puisque les nazis prennent le pouvoir en 1933. Et ce jeune médecin comprend d'abord que la biologie et que la médecine sont au centre du régime. Pour la première fois de l'histoire, on a un régime fondé sur une biopolitique où la science, la race, la biologie sont au cœur vraiment du régime, dans tous les domaines de la politique, que ce soit la politique domestique, la politique internationale, les relations, la société est fondée sur la race, et on exclut au fur et à mesure ceux qui sont considérés comme étant de race inférieure. Et donc ce jeune médecin ambitieux va intégrer donc le parti, puis la SS. Il est mobilisé, il va notamment être envoyé sur le front de l'Est, et puis il va entrer à Auschwitz en 1943.
Il est prometteur. Il est l'élève de Fischer, qui a été le grand généticien, qui lui-même a récupéré du matériau humain en Namibie lors des massacres de population namibienne, ce qu'on dit être le premier génocide du XXe siècle, donc avant 1914. Donc là, on a une filiation, hein, oui, ce n'est pas quelque chose de nouveau.
Jean-Marc Dreyfus, historien, spécialiste de la Shoah et de la Seconde Guerre mondiale.
C'est une personnalité, disons, exubérante, on le voit beaucoup. C'est aussi quelqu'un, c'est l'homme de pouvoir, qui arrive à prendre le pouvoir sur tous les médecins du camp d'Auschwitz. C'est quelqu'un qui travaille à sa propre publicité. Mengele veut être un grand médecin. Mengele, il rêve du prix Nobel, hein. Et lui, il prend le pouvoir, mais il est, je dirais, par la mise en scène de soi, de lui-même, il est quand même exceptionnel par rapport aux autres médecins qui vont conduire des expériences médicales.
Alors, on peut pas savoir ce qui pousse un type comme ça à se lancer dans ce genre d'expérimentation. Il me semble que ce qui est plus pertinent, c'est d'essayer de comprendre comment finalement ça devient possible.
Richard Reichmann, psychiatre, psychanalyste et anthropologue, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales.
Parce que, qu'est-ce qu'il pousse ? On pourrait imaginer que c'est impossible. Or, il y a deux façons de penser la question de l'impossible et du possible. Il y a celle qui est philosophique, se dire, voilà, ça devrait être impossible de faire ça à d'autres hommes. Mais empiriquement, on se rend compte que c'est possible. Donc il me semble qu'il faut sortir du champ philosophique, métaphysique, pour essayer de comprendre comment c'est possible, et partir sur le champ technique. Comment c'est possible, c'est-à-dire comment ça a été réalisable. Et là, effectivement, ça devient beaucoup plus facile, entre guillemets, d'analyser comment il est possible de transformer un être humain en un objet sur lequel on va réfléchir pour le bien des autres. À partir du moment où vous êtes dans une société génocidaire qui distingue plusieurs types de populations, dont une qui est par définition est bonne à tuer. C'est comme ça que c'est vraiment pensé. Il y a ceux qui sont bons à tuer et ceux qui ne sont pas bons à tuer. Vous n'avez pas le droit de tuer quelqu'un qui fait partie de votre groupe. Vous êtes un criminel. Le crime existe. Il y a des punitions. On n'est pas dans une société sans ordre ni loi. On n'est pas dans la perversion tous azimuts. Contrairement à l'image souvent répandue, on est vraiment dans une société extraordinairement ordonnée, avec des choses qu'il est possible de faire, des choses qu'il n'est pas possible de faire. Ce qui n'est pas possible de faire, c'est de laisser vivre ceux qui sont bons à tuer. Dès lors qu'ils sont bons à tuer, pourquoi ne serait-il pas bon à servir aussi d'expérimentation ? Mengele faisait des expérimentations, mais avant de massacrer les Juifs, on utilisait aussi leur peau pour en faire des abat-jour, on pouvait utiliser leurs cheveux, on pouvait faire du savon avec la graisse, tout était possible. Tout était possible puisque justement, ce groupe était simplement destiné à disparaître. Alors que ça soit rapidement ou plus lentement et que ça serve à d'autres, bah, ça devient une question purement technique. Mais il ne s'agit pas non plus d'imaginer que c'est l'idéologie qui mobilise chaque individu. Je ne suis pas sûr que Mengele était, par exemple, un nazi convaincu qui faisait qu'il voulait absolument, pour défendre l'idéal nazi, faire ce qu'il a fait. Non, il l'a fait grâce à l'idéologie qui lui permettait de le faire. Mais ils n'ont pas besoin, ces individus, d'être fortement idéologisés pour agir. Donc l'idéologie n'explique pas l'acte individuel, il explique l'ensemble du mouvement social qui va permettre ce genre de choses, c'est-à-dire qui va permettre de distinguer dans une population ce que l'on garde et ce que l'on élimine. On s'est souvent dit, mais pourquoi? Comment ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils pensent à ce moment-là? Mais ils pensent à eux, ils pensent à leur vie, ils pensent pas aux détails qui consistent à tuer quelqu'un, ils pensent à tout ce qu'il y a autour, leur vie ordinaire, comment ils vont préparer les machines, comment ils vont faire ce qu'ils ont à faire. Eh bien, c'est pareil. Dès lors que vous avez cette lecture un peu analytique au sens d'observation, alors ça ne devient plus mystérieux, parce qu'on se rend compte que les personnes qui agissent ainsi agissent comme n'importe qui. La barrière n'est pas interne, elle n'est pas psychique. La barrière, elle est vraiment sociale, où il y a une société qui dit non, 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 ça, c'est pas possible. Ça, vous n'avez pas le droit. Il y a un conseil de l'ordre des médecins qui interdit un certain nombre de pratiques, et on voit très bien que quand ce conseil de l'ordre n'est pas au service d'une visée démocratique, ben, il peut faire plein d'autres choses. En Argentine, au Brésil, vous avez des psychanalystes qui étaient des tortionnaires. On pourrait imaginer qu'il y a bien quelque chose qui est incompatible avec la fonction de psychanalyste que d'être psychanalyste le jour et tortionnaire, pratiquer la torture. Eh bien, la psychanalyse ne protège en rien si la société n'est pas derrière en disant « c'est pas possible ». Ça ne veut pas dire que tous les psychanalystes peuvent devenir des tortionnaires, ça ne veut pas dire que tous les médecins peuvent le faire, mais ça veut dire qu'il faut une organisation générale d'une société qui énonce ce qui est possible, ce qui ne l'est pas.
Pour certains, comme Mengele, c'était une opportunité pour faire des expériences qui pouvaient, selon lui, apporter quelque chose à la science.
Serge Klarsfeld, historien, avocat et ancien chasseur de nazis.
En élargissant le problème, certainement des firmes pharmaceutiques allemandes ont subventionné des expériences aussi qui leur permettaient de faire des expériences qu'ils ne pouvaient pas faire en temps normal, et donc de peut-être de trouver des améliorations à tel ou tel médicament ou tel traitement. Il y avait aussi la tâche qui incombait. Mengele, par exemple, voulait multiplier les jumeaux, puisque, au fond, les Allemands allaient perdre des millions d'hommes, et multiplier les jumeaux ou les tripler, etc., c'était important. Essayer de trouver les moyens de stériliser hommes et femmes juifs, de façon à mettre fin à l'existence du peuple juif. Bon, c'est complémentaire. Vous avez Hirt, qui était directeur de l'Institut d'anatomie pathologique à Francfort, qui, lui, a voulu constituer une collection de squelettes juifs intéressants. Il a donc envoyé quelqu'un à Auschwitz, qui a sélectionné 84, je crois, juifs, qu'on a envoyés au Stutthof en Alsace, et on les a tués dans une chambre à gaz artisanale, et ensuite on les a découpés pour faire la collection de squelettes qui a été retrouvée à Strasbourg dans les caves de l'université allemande de Strasbourg.
Non, qu'est-ce qu'ils racontent, ces médecins de Mengele?
Ces médecins qui travaillaient avec Mengele racontent que c'était un homme petit, C'est important parce qu'il avait, il était un peu différent, si vous voulez, du grand type de médecin blond et de l'icocéphale blond. Hein. Donc, il avait plutôt à s'affirmer comme grand spécimen biologique, si je puis dire. Donc, il n'était pas méchant avec les enfants. Et il est arrivé que certains survivent. Par contre, il les utilisait totalement. Il faisait à la fois des examens, des prélèvements, et surtout, quand ils étaient morts, en général parce qu'il les faisait tuer, il envoyait toutes les pièces dont il disposait dans différents services de recherche en Allemagne.